Bienvenue sur The Thinking Gallery, le podcast qui décortique la pensée des leaders d'aujourd'hui afin d'anticiper le monde de demain. Je suis Paul Terrasson du Vernon et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Arthur Derderian. Vous êtes prêts? Abonnez-vous et on vous propose de plonger dès à présent dans The Thinking Gallery.
Tout le monde connaît les réseaux publics, les réseaux télécoms publics, hein, donc en France, Orange, SFR, Bouygues, etc. Ces réseaux, ils utilisent des fréquences qui sont allouées par le régulateur, par le gouvernement, puisqu'en fait, le spectre qui est disponible, c'est la propriété de l'État. Depuis à peu près 3 ans, d'abord aux États-Unis, puis en Europe, puis en Asie, les gouvernements ont décidé de libéraliser une partie de ce spectre, donc des fréquences, pour les allouer aux entreprises. Donc ça veut dire qu'une entreprise aujourd'hui, elle a la possibilité de déployer son propre réseau, d'où l'idée de réseau privé, pour couvrir ses propres besoins de connectivité au sein d'une usine, d'un entrepôt, un port, un aéroport, une mine, etc. Donc ça veut dire que ce sont des réseaux qui sont indépendants des réseaux publics, qui vont vraiment être fabriqués sur mesure pour les besoins de l'entreprise et qui sont plutôt tournés vers des usages machine to machine, c'est-à-dire qu'on va connecter des équipements, des véhicules, des machines, des robots, des tablettes.
À quoi ça sert de connecter tout ça?
Alors, en fait, ce que cherchent les entreprises aujourd'hui, c'est à se digitaliser. En fait, il y a vraiment une tendance de fond qui est une transformation digitale des métiers des entreprises pour être plus efficace essentiellement, pour pouvoir piloter de manière à distance leurs propres opérations, pour automatiser un certain nombre de process, pour baisser leurs coûts aussi, hein, parce qu'en fait, quand on automatise, bah, ça veut dire qu'on va pouvoir faire tourner une usine la nuit ou pendant les week-ends ou les vacances, et in fine, gagner en compétitivité. Et en fait, si je reviens au point de départ, c'est ça que les gouvernements ont identifié très tôt, c'est pour ça qu'ils ont libéralisé une partie du spectre pour les entreprises, c'est pour faire en sorte que les entreprises soient plus compétitives, restent en France, alors bien entendu chaque pays fait la même chose, hein, restent locales, et puissent être plus performantes au niveau mondial.
D'accord. Et vous êtes open source, c'est-à-dire dans quelle mesure, dans quel sens?
Alors, nous, on est utilisateur d'un code open source qui s'appelle l'Open Air Interface.
D'accord.
On va l'appeler OAI, son petit nom, qui, en fait, a été développé par un labo de recherche français qui s'appelle Orecom, qui est basé à Sophia Antipolis. Et pour nous, ça a été un moyen d'aller plus vite. C'est-à-dire qu'on a vu l'open source d'abord comme un moyen de casser le modèle black box des gros équipementiers que sont Nokia et Ericsson. Et aussi d'aller plus vite, puisque ça veut dire qu'il y a toute une partie du logiciel qu'on n'a pas eu à redévelopper. Et ça a plusieurs avantages. Les gens ne le savent pas, mais la 5G, elle existe et elle fonctionne. Votre téléphone, il fonctionne sur tous les réseaux de la planète.
Ouais.
Pourquoi? Parce que c'est un standard. Ce standard...
Comme pour l'aviation, où ils ont des ondes standards, etc.
Exactement. Mmh. Ce standard, il s'appelle 3GPP. Il a été, il est construit au fur et à mesure par les plus grandes sociétés télécom du monde. Il y en a plusieurs milliers. Et c'est elles qui ont fabriqué le standard de la 3G, de la 4G, de la 5G et qui aujourd'hui commencent déjà à travailler sur le futur réseau 6G. Bon, ça viendra dans 10 ans. Et donc, ce standard, son rôle principal, c'est vraiment d'assurer une interopérabilité de nos téléphones, de nos laptops, de je
GPS,
sais pas quoi,
machin.
Voilà, dans le monde entier, qu'on soit sur un réseau Vodafone en Angleterre, AT&T aux États-Unis ou Orange en France. Voilà, c'est ça.
C'est quoi la différence entre le réseau 2G, 3G, 4G, 5G, 6G? Si j'ai bientôt, un jour.
Alors, c'est surtout les performances. Moi, je vais pas aller dans la technique, hein, mais à chaque génération, ce fameux consortium, hein, ce standard 3GPP, a cherché continuellement à améliorer les performances de communication.
À transporter le plus d'informations possible, le plus vite possible.
Alors, voilà, il y a plusieurs choses. Hein. Les améliorations, elles sont d'abord en termes de couverture. C'est-à-dire, finalement, utiliser des antennes qui sont de plus en plus efficientes. Ensuite, c'est effectivement transporter de plus en plus de données en volumétrie le plus rapidement possible. C'est-à-dire que vous vous souvenez, hein, les premiers mobiles qu'on avait il y a, je sais pas, 15 ans. Péniblement, on envoyait des petites photos d'un mobile à l'autre. Aujourd'hui, on est capable de faire du streaming en live, voilà, sur son mobile. Hein. Et demain, donc la 5G. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la 5G, elle ne révolutionne pas la vie des particuliers, hein, de toi et moi. En fait, ça n'a pas été fait pour ça. Ça a été fait dès le départ, avec en ligne de mire le business des entreprises.
Et pourquoi les entreprises, elles ont besoin que ça aille plus vite? Elles ont besoin de passer à la 5G et pas à la 4G?
Alors, la 4G fonctionne déjà pas mal. En réalité, il y a déjà des entreprises qui ont déployé des réseaux 4G, notamment dans des mines, pour collecter des véhicules. Alors, c'est plus efficace que le Wi-Fi parce que ça a une plus grande portée et une plus grande bande passante. Mais la 5G va encore plus loin. Alors, elle va encore plus loin en termes de débit. Elle va encore plus loin en termes de latence, c'est-à-dire qu'on arrive à des degrés de latence qui sont très faibles, qui vont permettre d'ouvrir des cas d'usage qui sont critiques, qui ne fonctionnaient pas si on n'avait pas ce degré de latence. Je vous donne un exemple, piloter un robot à une certaine vitesse qui va se balader dans une usine, bon, bah, jusqu'à présent, ce n'était pas possible sans la 5G. Et puis, le dernier élément qui est important, intéressant, c'est que ces standards mobiles, ils permettent la mobilité lorsque son mobile, son device se balade entre une antenne et une autre. Hein. C'est pour ça que quand vous êtes à, je sais pas, 100 km/h sur une autoroute, vous êtes au téléphone, bah, tu peux avoir une conversation pendant une heure durant sans coupure.
Ouais.
En fait, ça, c'est possible parce qu'il y a cette capacité de passer un appel d'une antenne relais à une autre antenne relais sans couture. Et donc ça, c'est une grosse différence, enfin, c'est un gros avantage de ces standards.
Tu dirais que c'est vraiment un enjeu de compétitivité aujourd'hui dans l'industrie d'être à jour sur ces générations mobiles?
Ouais, à fond, vraiment.
Sur quels aspects? Même, il y a des industries peut-être où c'est plus marqué que d'autres?
Alors nous, on le voit effectivement, là où il y a beaucoup de demandes, c'est dans la logistique, notamment l'intralogistique, dans l'industrie manufacturière, notamment automobile et aéronautique. Et oui, c'est un enjeu stratégique parce que on a même des entreprises qui nous disent, écoutez, aujourd'hui, on a compris que si on se ratait dans le déploiement de notre infrastructure de communication, c'est toute notre roadmap d'innovation que l'on mettait en danger. Parce que ça devient un socle sur lequel on va construire du monitoring à distance, on va comprendre ce qui se passe dans les flux de produits dans son usine, on va être capable de commander beaucoup plus vite, on va être capable de résoudre des problèmes sur des machines à distance, on va réduire ses coûts. Enfin, il y a vraiment un enjeu économique pour les entreprises qui est super fort.
Et à ce sujet-là, alors on va parler trop dans la technique, mais est-ce que c'est sécurisé aujourd'hui, un réseau comme ça, dans le sens où on se rend compte que pour certaines entreprises, même sur des domaines assez critiques, il y a des enjeux de sécurité énormes, de dire déjà d'avoir une connexion Internet qui tient tout le temps, et en plus sur laquelle on peut pas interférer sans être interne à l'entreprise, ça donne quoi aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose où on peut être sûr?
Alors c'est un point critique, hein. Toutes les entreprises le remontent, parce qu'en fait les enjeux, plus une entreprise se digitalise, plus elle offre finalement une surface d'attaque.
Tout à fait. Plus il y a de points, plus on peut faire mal.
Voilà. Et donc, jusqu'à présent, ce qui est un peu rigolo, c'est que tout le monde avait du Wi-Fi. Le Wi-Fi, il suffit de s'échanger un petit code et n'importe qui peut rentrer dans le réseau. Donc, en fait, c'était des passoires, mais personne ne se posait vraiment la question. Il n'y a pas trop de problèmes. À partir du moment où les entreprises commencent à connecter le cœur de leur réacteur, hein, et de leur activité, ça devient un problème qu'il faut absolument regarder avec précision. Et donc, l'intérêt des technologies 4G, 5G, c'est que ce sont des technologies qui sont encryptées de bout en bout, notamment grâce à la carte SIM. C'est-à-dire que on ne peut pas rentrer sur le réseau si on n'a pas l'équivalent de la carte SIM. Donc il faut que...
Ça fonctionne avec les eSIM?
Ça fonctionne avec l'eSIM, oui, okay. Tout à fait. Mais ça veut dire qu'il faut que toi, en tant qu'utilisateur ou un device, il ait l'équivalent de la cryptologie qui est sur la carte SIM pour pouvoir rentrer dans le réseau. Donc déjà, il y a un niveau de sécurité qui est beaucoup plus fort. Ensuite, cette histoire de réseau privé fait qu'il faut l'imaginer comme une bulle. l'entreprise peut décider que son usine, en fait, toutes les données qui vont connecter au sein de son usine ou son entrepôt vont rester locales. Et à ce moment-là, y a plus de problème d'étanchéité. C'est elle qui va décider de faire sortir et rentrer juste une partie de ces informations.
Ça remplace le Wi-Fi ?
Alors, ça ne le remplace pas, ça le complète.
Ok, donc il faut quand même avoir le Wi-Fi dans les bureaux.
Très franchement, le Wi-Fi, il fonctionne parfaitement pour les bureaux, hein, parce que d'abord, on
est
statique.
Mais ce n'est pas doublon.
Ce n'est pas les mêmes applications, c'est ça ?
Ouais, exactement. Ce n'est pas les mêmes applications. Donc, le Wi-Fi, c'est idéal pour connecter un laptop, un mobile, quand on est assez peu nombreux et quand on est statique. Quand on parle de connecter des machines, de connecter des caméras 5G, de connecter des robots, là, le Wi-Fi, il est à la peine. Donc nous, tous les jours, on a des entreprises qui viennent nous voir, qui nous disent, j'ai étendu mon réseau Wi-Fi dans mon usine ou dans mon entrepôt, et en fait, ça ne marche pas. Le plus drôle, c'est des entreprises de picking qui nous disent, le Wi-Fi tombe en rade deux fois par jour, et mes ouvriers, ils perdent 30 minutes par jour. Ou le Wi-Fi ne passe pas au travers de palettes de pastèques.
Ah ouais.
Il y a des éléments comme ça qui sont liés intrinsèquement à la techno qui font que ça ne fonctionne pas lorsqu'on le pousse dans un environnement industriel. Alors, il faut aussi comprendre qu'un environnement industriel, c'est fait de quoi ? C'est des infrastructures, la plupart du temps en acier, avec plein de machines au milieu, ouais. Avec énormément d'interférences.
C'est pas les mêmes bandes passantes, j'imagine.
Et tout ça, ça marche très mal en Wi-Fi. Donc les gens nous disent, mon Wi-Fi, j'ai ce qu'on appelle des blind spots, donc des points noirs à certains endroits de mon entrepôt. Je ne sais pas le corriger, j'y arrive pas. Aidez-moi.
Comment on déploie aujourd'hui un réseau 5G Comment on déploie un réseau 5G et d'autant plus dans une entreprise?
Alors c'est le même principe qu'un gros réseau public, hein, c'est-à-dire que tu déploies des serveurs, alors qui peuvent être dans l'usine ou dans un data center ou dans le cloud. Et puis tu vas déployer ce qu'on appelle des radios et des antennes qui vont, elles, être sur site, puisque c'est elles qui vont créer le réseau. On va ensuite aller demander la fameuse fréquence au régulateur, donc en France à l'ARCEP, et on va créer ex nihilo un petit réseau.
Voilà. Chaque entreprise a des fréquences, enfin chaque réseau a une fréquence différente.
C'est le même réseau sur tout le territoire.
D'accord.
Mais par contre, tu vas pouvoir réserver ta fréquence pour ton entrepôt qui est à tel endroit.
D'accord.
Donc, c'est en fonction de la localisation.
Ça se passe comme pour les ondes radio.
Ouais.
Pour que ce soit un peu plus palpable et sans rentrer trop dans les détails de confidentialité, est-ce que par exemple tu aurais un cas d'usage d'une entreprise par exemple pour nous expliquer, comment ça s'est passé? Quelles applications il y a eu pour ce réseau-là? Sur quelle machine ça a pu jouer? Comment ils ont pu mettre ça en place?
Alors écoute, il y a un exemple qui est vraiment un très bel exemple et qui va assez loin,
ouais.
Qui est un projet qu'on a gagné et qui est public depuis un an avec Stellantis, où on va aller connecter des outils à main, donc des visseuses à main, qui sont utilisées sur des lignes de production automobile en 5G, pas juste pour le fait de les connecter, en fait, mais pour les géolocaliser. Et pourquoi les géolocaliser? Parce que, en réalité, sur une ligne de production, elle est divisée en pas de travail. Chaque pas de travail égale, en gros, une voiture. Sur chaque voiture, à chaque pas de travail, un ouvrier a un certain nombre d'opérations à réaliser. Et ce que Peugeot et Stellantis souhaitent éviter, c'est en fait des problèmes de qualité où un certain nombre d'opérations seraient ratées ou oubliées sur ce pas de travail avant d'aller travailler sur la voiture d'à côté. Et donc, notre outil permet d'aller localiser, notre réseau, pardon, permet de localiser ces outils à moins d'un mètre de précision et ensuite de faire ce qu'on appelle du geofencing. Donc le geofencing, c'est-à-dire que si les opérations nécessaires n'ont pas été réalisées, on va couper l'outil connecté s'il sort de son pas de travail. Okay. Voilà, donc c'est assez concret. Et en fait, il faut vraiment l'imaginer comme un élément de qualité de service. On a des discussions dans l'aéronautique qui sont avec exactement la même problématique. Dans l'aéronautique, ils ont ce qu'ils appellent les foreign object debris. Donc, c'est tout objet oublié à l'intérieur de la carlingue d'un avion qui, en fait, pose plus tard des problèmes de sécurité en vol. Donc ça, ils souhaitent éviter absolument. Donc, ils veulent savoir exactement D'abord, où sont les outils, et demain, où sont les pièces détachées avant qu'elles s'assemblent.
Et ça, on ne peut pas le faire avec un réseau classique, entre guillemets, le réseau d'Orange, de Free, de Bouygues, même si
alors,
chelou entre des bancs.
Bah, tu vois, la plupart du temps, les usines en question, elles sont en rase campagne. Elles sont peu ou mal couvertes. Et surtout, là, ce dont je vous parle, c'est vraiment à l'intérieur de bâtiments, avec ces fameuses structures en acier. Donc, les ondes passent un tout petit peu, mais pas assez bien pour aller faire ce genre d'opération.
Et aujourd'hui, tu travailles avec Orange là-dessus ?
On travaille avec Orange, ouais.
Vous faites quoi ?
Eh bien, écoute, on essaye, on va chercher des clients ensemble, puisqu'en fait, on a été sélectionné par l'accélérateur 5G d'Orange, ce qui s'appelle Orange Fab. Et on est en train d'aller chercher.
Donc vous êtes synergé. Ça existe, synergétique.
Ouais, ouais, complètement.
Ben voilà, vous êtes synergétique.
Complètement, complètement, complètement. Bah, tu vois, de la même manière que les réseaux d'Orange sont fournis par Nokia, Huawei, nous on fournit des petits réseaux, hein, qui sont vraiment qui vont connecter. Il faut voir ça. Il faut voir la différence d'échelle. Un réseau mobile Orange, il va connecter plusieurs dizaines de millions de personnes. Un réseau mobile d'entreprise Firecell, il va connecter quelques centaines ou milliers d'objets. Donc c'est ça l'échelle, quoi. Donc nous, on est un fournisseur pour Orange.
Donc en fait, vous êtes beaucoup plus pertinent qu'Orange sur des zones plus petites. Et
c'est
Orange
ça.
Est beaucoup plus pertinent que vous sur des zones à l'échelle d'un pays.
C'est ça, mais Orange, en fait, c'est aussi un partenaire pour aller adresser des entreprises, puisque lui, il va apporter une couche de services que nous, on ne va pas faire.
Type maintenance, ce genre de choses, c'est ça ?
Ouais, il va faire de la maintenance, il va aussi faire de l'intégration, tu vois, sur site, de l'installation. Nous, on n'a pas les hommes pour aller installer partout en France et partout à l'étranger.
Mais c'est vrai, autant profiter des compétences qui sont déjà disponibles.
Donc voilà, ça c'est leur métier, ils sont très bons à ça.
Et c'est quoi vos critères de performance pour justement juger de l'efficacité de ce genre de réseau ? Est-ce que c'est la fiabilité justement du nombre de connexions qui ont été réussies ? Enfin, comment vous basez là-dessus dans une entreprise pour dire « Ok, là, on a un système qui est fonctionnel et tout va bien se passer ?»
Alors, écoute, tu as plusieurs critères. Le premier, effectivement, c'est la performance de débit atteint
d'accord.
à n'importe quel endroit du réseau. Le deuxième, c'est le nombre de terminaux maximum qu'on va pouvoir connecter en simultané sur ce réseau. Et le troisième, alors ce n'est pas le cas pour tous les clients, mais certains clients nous demandent une certaine qualité de service pour un cas d'usage précis. Donc ce cas d'usage, il est tellement critique pour eux qu'ils vont nous demander de garantir un débit ou de garantir une latence à tout moment dans leur entrepôt ou dans leur usine.
Tu aurais des ordres de grandeur de la vitesse et de la capacité d'information qui peut être transmise d'une antenne à une autre pour la 4G et pour la 5G et pour le Wi-Fi éventuellement.
Ouais, mettre en relief même avec ce qui se faisait avant.
Alors, j'ai pas tous les rapports. Je peux vous donner des ordres de grandeur. Hein. En 5G, on est capable d'aller jusqu'à 1,2 gigabits seconde.
Okay. Ça représente quoi ? T'aurais un truc qui... Ouais.
C'est pas mal quand même. Hein.
Non, franchement, je sais même pas vous dire à quoi ça correspond.
Faut dire, un film, il me semble que c'est... téléchargé légalement en ligne, c'est de l'ordre du moins de 10 gigas. Donc ça veut dire qu'en moins de 10 secondes, on peut télécharger un film, alors qu'il me semble qu'il y a rien que 5 ans, c'était plutôt 3-4 heures pour télécharger un film globalement.
Et alors tu vois, j'ai pas les ordres de grandeur par rapport au Wi-Fi ou à la 4G, mais je pense que en Wi-Fi, c'est vraiment 10 fois moins,
ouais,
10 fois moins que ça. Et ensuite, l'autre élément intéressant, c'est la latence. La latence, on va en fait être capable d'atteindre des latences qui sont équivalentes à celles d'un câble Ethernet, donc en dessous de 10 millisecondes.
Est-ce que tu peux nous rappeler exactement ce que c'est la latence ?
Donc la latence, c'est le temps nécessaire pour une information
pour passer aller-retour.
Voilà, aller-retour sur le réseau. Et ça, c'est hyper important pour des usages très critiques, comme aller piloter des machines qui remontent des informations en temps réel.
Ouais, on a besoin de savoir au moment réel, c'est
exactement.
Ça, qu'est-ce qui se passe, s'il y a un problème.
Est-ce que ça bouleverse l'écosystème de l'IoT, des objets intelligents ?
Alors, je pense que ça ne le bouleverse pas encore, mais ça a le potentiel de le bouleverser.
Est-ce que du coup, ça va faire émerger plein de nouvelles idées d'applications, de connexions entre les objets ?
Si tu veux, aujourd'hui, l'IoT, il a eu du mal à décoller. D'abord, il a eu du mal à mettre en place un standard. Donc, la force de la 5G, c'est un, ce standard, et deux, tout l'écosystème des entreprises qui est derrière, qui pousse, qui sont des grosses boîtes, et qui sont à même, en fait, de faire baisser les coûts du réseau. Dans l'IoT, c'est beaucoup cherché, quoi, entre Sigfox, LoRa,
Zigbee,
je sais pas quoi. Voilà, il y a eu plein de problèmes d'infrastructure, et puis du coup, l'entreprise, elle est face à un choix qui est, ah ben mince, je vais parier sur le standard lambda, là, mais je sais pas combien de temps ça va durer. Est-ce que c'est le bon, c'est pas le bon? Donc, c'est, franchement, je pense que c'était assez compliqué. Ce morcellement des standards, c'est plutôt déstabilisant pour une entreprise. Alors que la 5G, là, on est sur quelque chose qui est tellement reconnu, tellement widespread, quoi, hein, partout dans le monde, que bon, bah, il n'y a pas photo, on ne se trompe pas.
Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. À très vite.